La revue de presse internationale.
On continue cette fois-ci avec l'Amérique. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Avec les 100 jours de Trump, 100 jours qui paraissent déjà une éternité.
Oui, lorsque le 20 janvier dernier, Donald Trump avait choisi My Way pour son bal d'inauguration. On rappelle ce matin le site de la BBC, nombre de commentateurs avaient non seulement souligné la piètre performance de danseur du tout nouveau président élu, mais plus encore... La plupart estimaient que cette interprétation par Frank Sinatra du célèbre tube de Claude François, comme d'habitude, donnait déjà une idée assez claire de la tonalité sur laquelle le nouveau locataire de la Maison-Blanche allait gouverner. Trump resterait Trump. Et de fait, s'il a changé la manière d'exercer le pouvoir, en revanche, ne l'a pas changé. Ou dit autrement, le candidat anti-establishment est devenu le modèle de l'anti-président. Et puis... Toujours à l'occasion de ce bal d'inauguration, certains n'avaient pas manqué non plus de relever les premiers mots de My Way. And now the end is near. Et maintenant que la fin est proche. Eh bien, à l'approche des 100 premiers jours de sa présidence, si la fin semble encore effroyablement éloignée de la ligne d'horizon, le début, lui, paraît déjà une éternité. Dans sa campagne électorale, Donald Trump avait promis de rendre sa grandeur à l'Amérique. Or, 100 jours plus tard, écrit le magazine Slate, le président a rétréci les États-Unis. Lors de sa campagne, à tous ceux qui n'aimaient pas Hillary Clinton, mais n'étaient pas certains de vouloir voter pour lui, il leur disait « Qu'est-ce que vous avez à perdre ?» Après tout, c'est vrai qu'il n'avait jamais siégé au bureau ovale et peut-être qu'il pouvait changer les choses, du moins ceux qui se sont laissés tenté, pensait qu'il ne pourrait pas aggraver les choses. Et pourtant, il l'a fait. Pourquoi ? Parce que si la fin de cette supercherie semble encore appartenir à un autre monde, dans un mouvement inverse, la réalité, la complexité du monde d'aujourd'hui, elle, s'est considérablement rapprochée du nouveau président, au point de rattraper la simplicité de toutes les promesses tonitruantes du candidat. Qu'il s'agisse de l'abrogation de l'Obamacare, qu'il n'a pas réussi à imposer, de son décret anti-immigration, dont la seconde version a rencontré un nouvel échec, de la construction du mur à la frontière mexicaine, qu'il ne parvient pas à financer, le bilan de ses 100 premiers jours est en effet plutôt mince. Cette semaine encore, un juge américain a bloqué le décret de Trump contre les villes dites sanctuaires, un texte qui visait à priver de financements fédéraux les collectivités opposées à sa politique anti-immigration. En d'autres termes, la Maison-Blanche a beau énumérer le nombre de décrets signés et de lois promulguées, et même le nombre de coups de fil passés à des dirigeants étrangers pour saluer son bilan, depuis qu'il est président, Donald Trump a fait une expérience pour le moins douloureuse du partage des pouvoirs inscrit dans la Constitution. Seule la confirmation du juge conservateur, Neil Gorsuch, à la Cour suprême représente aujourd'hui une victoire indéniable dans ce début de mandat. Le dernier sondage publié par la chaîne CNN est d'ailleurs sans équivoque. À plus de 55%, les Américains interrogés désapprouvent la politique menée par leur président. Alors, dans ce contexte, c'est peu de dire que la réforme fiscale présentée hier soir apparaît cruciale pour Donald Trump. La réforme que Trump ne peut pas se permettre de rater, titre d'ailleurs ce matin l'éditorialiste du Temps. Trump a besoin aujourd'hui d'une victoire symbolique pour marquer ses 100 premiers jours de présidence et de fait, en abaissant notamment le taux d'imposition des entreprises de 35 à 15%, le chef de la Maison-Blanche concrétiserait l'une de ses emblématiques promesses de campagne. L'ancien homme d'affaires satisferait tant les milieux économiques que les marchés financiers, mais pour cela, l'occupant de la Maison-Blanche devra encore surmonter plusieurs obstacles d'envergure. Le premier est un désaccord d'ordre philosophico-financier. Selon le think tank Tax Foundation, le système fiscal envisagé priverait les finances publiques de 2200 milliards de dollars de revenus sur 10 ans. Et pour compenser ce coût abyssal, Trump compte sur la croissance. Sauf que sa vision d'un cercle vertueux, en clair, en payant moins d'impôts, les entreprises dégageraient davantage de bénéfices et donc de recettes fiscales, ne convainc pas certains représentants de son parti. Les républicains les plus attachés à l'orthodoxie budgétaire en particulier craignent une explosion du déficit public. Et c'est également ce que pointe le quotidien conservateur Wall Street Journal. Selon toute vraisemblance, dit-il, cette baisse du taux d'impôt sur les sociétés accroîtrait le déficit budgétaire fédéral. Sans compter que la presse américaine fait état ces derniers jours du risque d'un shutdown, c'est-à-dire d'une fermeture de certaines administrations fédérales, si le Congrès ne vote pas d'ici demain une loi permettant à l'État fédéral de fonctionner dans les prochains mois. La deuxième difficulté est-elle liée au calendrier de la réforme ? Le président a besoin de la concrétiser cette année ou au moins convaincre les investisseurs que ce sera le cas. Or, l'administration fédérale se met en congé en août, ce qui signifie que le dossier doit donc être bouclé d'ici là, c'est-à-dire en 3 petits mois seulement. Enfin, troisième obstacle, le système fiscal du futur devra faire revenir les milliers de milliards de dollars parqués hors des États-Unis par les multinationales américaines, ce qui implique qu'elles aient confiance dans la durabilité de la réforme et donc que celle-ci soit auto-financée. Alors, Lundi dernier, devant les étudiants de l'Université de Chicago, Barack Obama, pour sa première réapparition publique depuis qu'il a quitté la Maison Blanche, a commencé son intervention par cette phrase, rapporte The Guardian. Alors, il s'est passé des choses pendant mon absence, évidemment, même si durant les 90 minutes de son intervention, l'ancien président a soigneusement évité toute mention du nom de son successeur. Tout le monde aura compris que son introduction ironique visait directement à pointer l'échec de Donald Trump durant ses 100 premiers jours de mandat. Et d'ailleurs, renchérit The New Yorker, quand bien même certains n'auraient pas saisi cette allusion directe au nouveau président élu, le simple fait que Barack Obama ait déversé un torrent de phrases grammaticalement correctes que les Américains n'ont pas entendues depuis son départ de la Maison Blanche constitue déjà en soi une attaque brutale contre Donald Trump.